Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneau.
Avec autour de la table le directeur général de l'opinion chez IFOP, Frédéric Dabi, la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, Philippe Doucet, membre du bureau national du PS, et Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui, je rappelle, sera l'invité de Sonia Mabrouk demain matin dans la matinale d'Europe 1 à 8h13 jusqu'à 9h. Vous le savez, l'élection présidentielle approche. Nous sommes à J-84 aujourd'hui et certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour peinent à boucler leurs 500 signatures, comme on dit. 500 élus locaux qui donnent l'aval pour qu'ensuite la candidature soit validée. Une sortie remarquée ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1 CNews Les Échos, celle du président des maires de France, David Lisnard. Réponse en deux temps, ce n'est pas à moi de leur trouver leur parrainage, mais dit-il à titre personnel, il trouve que cette mesure est dépassée.
Je constate du passé que les candidats ont réussi à obtenir leur parrainage, y compris des Jacques Cheminade à l'époque, des gens qui pensaient que les extraterrestres arrivaient, etc. La vie, c'est d'assumer les responsabilités qui sont les siennes. Et moi, ma responsabilité, c'est pas de chercher des parrainages pour des candidats. Je pense qu'ils ont raison de dire que la règle des... Moi, à titre personnel, c'est pas la position de l'AMF, mais à titre personnel, je pense que cette règle n'est plus adaptée. Je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai proposé plusieurs solutions. Le double parrainage qu'avait proposé Jacques Pélissard à l'époque, le fait de mixer avec un parrainage citoyen. Enfin, on a différentes façons de le faire. Les règles n'incombent pas au maire, à l'AMF. Elles incombent au pouvoir exécutif et législatif. Ce n'est pas une façon de botter en touche, c'est une réalité institutionnelle. Par une loi organique qui nécessite des délais de dépôt extrêmement longs, les candidats ne découvrent pas aujourd'hui les règles. Pas un n'en parlait, sauf une exception. Jean-Luc Mélenchon.
David Lisnard, le président de l'AMF, ce matin au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Philippe Doucet, au départ, puisque vous êtes le spécialiste des tutos dans cette émission, au départ, cette règle des 500 parrainages, elle sert à quoi ? À montrer un ancrage territorial du candidat à la République ?
Quand Michel Debré écrit la Constitution de 1958, la règle, c'est on essaye d'éviter les zozos. Voilà, l'idée, c'est quand même une élection présidentielle. On essaye d'éviter Monsieur Michu ou Madame Michu puisse te présenter. Bien. Donc c'est ça, cette règle-là. Et donc, du coup, c'est d'où la règle d'avoir ces signatures pour dire, voilà, quelqu'un qui est représentatif d'un courant d'opinion avec une réalité territoriale minimum.
Même s'il croit aux extraterrestres, bien.
Même s'il croit aux extraterrestres. Bien. Voilà. Donc ça, c'est une chose. La difficulté de ça, c'est que la vie politique, la France a changé, la vie politique a changé, et qu'effectivement, c'est une règle qui...
On est passé de 100 à 500 aussi.
On est passé de 100 à 500, oui.
C'était
100 au départ.
Il y a toujours eu 36 000 communes.
Il y a toujours eu 36 000 communes, il y en a un peu moins aujourd'hui, on doit être à 35 800,
il y a
eu des fusions de communes, et il y a 42 000 électeurs. Il y a 42 000 personnes qui peuvent donner leur parrainage. Donc c'est quand même bien. Il se trouve que...
Il y a 25 millions d'électeurs à peu près.
Pardon ?
Il y a 25 millions d'électeurs.
Plus que ça.
47 millions. 47 millions ? Ouais. Pourquoi je disais 25 millions ?
Donc, peut-être 25 millions d'argent qui connaissent Woody Woodpecker.
25 millions de la vie active et 47 millions. Ça va à vous. Hein.
Bien.
Bon, alors, continuez votre tuto, pardon.
Donc, du coup, dans cette affaire-là, effectivement, pour un certain nombre de mouvements politiques, et ça a commencé avec Jean-Marie Le Pen, qui, en 1981, par exemple, n'a pas pu être candidat à l'élection présidentielle, parce qu'il n'a pas eu ses 500 signatures. Alors, en 1980, Jean-Marie Le Pen, le Front National, c'est 1% des voix à ce moment-là. C'est avant l'élection municipale de Dreux. Et donc aujourd'hui, tout ça, effectivement, a vieilli, y compris parce que, là aussi, autre élément qui est souvent dit, y compris dans la série Baron Noir, saison 3, c'est qu'en fait, avant les maires, il n'y avait pas les intercommunalités. Et donc, la logique de ce qui est des subventions, de la mise sous pression des élus locaux, n'était pas de même nature. Il y avait des budgets locaux, et chacun gérait ses affaires et tout. Donc là, l'espèce de collectif des élus, de comment je te regarde, comment tu me regardes, il a aussi changé. Et cette histoire d'évolution de la décentralisation, c'est aussi une donnée. Bien. Donc, là où M. Lisnard a raison, c'est qu'effectivement, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde se réveille au dernier moment, parce que ce débat-là, il aurait dû être porté il y a un an, il y a deux ans, comme d'ailleurs sur le financement des campagnes. Parce que c'était une proposition de M. Bayrou d'avoir une banque de la démocratie. Aujourd'hui, les candidats ont non seulement des problèmes pour certains droits de signature, mais un certain nombre d'entre eux auront des problèmes de financement. Parce que si la campagne est remboursée par l'État,
il faut aussi avancer
l'argent. Et la banque de la démocratie... Oui, mais les banques aujourd'hui, même pour les candidats législatifs, ne prêtent plus l'argent aux candidats. Parce qu'en fait, une banque
se dit... Même si j'ai mes 500 parrainages.
Même si vous avez 500 parrainages, c'est pas si simple que ça, parce qu'ils se disent, le remboursement, ils intègrent les sondages. Et donc, ils prennent 5% en remboursement plus la marge d'erreur de l'institut de sondage de 2,5-3. Donc, si vous êtes en dessous des 8, vous n'avez pas d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne, parce que le banquier, ce n'est pas une institution caritative. Sauf si quelqu'un connaît un banquier qui aime l'institution caritative. Donc, ce que dit M. Listin a raison. Donc, il y a une proposition qui a été faite, que moi je partage, je pense qu'il faut que ça évolue, et je pense qu'il faut intégrer
du coup
les conseillers municipaux dans ce dispositif. Ouais. Voilà, je pense que ça élargit le corps.
On va monter presque à 800 000. Quoi.
Voilà, donc, oui, il doit y avoir 500 000 élus,
je crois,
en France.
Ça, je dirais ça.
Il y a 500 000 élus en France, donc à ce moment-là, ça permet d'avoir une logique
de... seulement au maire, c'est ça?
Comment? Permet d'élargir et de se dire que chacun a responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il me paraît effectivement important que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, que tous ceux qui peuvent représenter quelque chose dans l'opinion, quel que soit ce qu'on en pense, il faut qu'ils puissent avoir, s'exprimer. Si demain Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas se présenter, on aurait un sujet démocratique. On l'aurait aussi si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter. Voilà. Donc moi je pense que la bataille démocratique doit pouvoir se faire.
Othmane Nasrou pour Valérie Pécresse.
Bon, d'abord, c'est normal qu'il y ait effectivement un système de filtrage. On ne peut pas se retrouver non plus avec une centaine de candidats à l'élection présidentielle, ne serait-ce que pour des questions aussi pratiques et de représentativité. Et en même temps, pardon d'utiliser cette expression qui est un peu connotée aujourd'hui.
Allez-y.
Non, je vous la laisse.
Il y a un copyright.
Mais en l'occurrence, il faut aussi que tous les candidats qui représentent vraiment une sensibilité dans l'opinion publique soient candidats à cette élection. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour auront leur parrainage. Mais donc, j'entends ce que dit David Lisnard. Pour l'avenir, on peut réfléchir à des manières de faciliter les choses pour des candidats qui trouvent quand même une audience dans l'opinion publique, quel que soit ce qu'on pense de leurs idées par ailleurs. C'est important que leurs idées soient représentées. Mais ça n'est pas à nous de les aider. Ouais. Ce que dit David Lisnard, ça n'est pas le rôle de l'Association des maires de France, ça n'est pas non plus le rôle des autres candidats.
Il dit que c'est l'exécutif ou le législatif, en tout cas, de trancher. Frédéric
David. Mais c'est vrai que c'est une question ancienne. On se souvient qu'en 2002, en 2007, Jean-Marie Le Pen avait énormément mis en avant ses difficultés à avoir des parrainages. En 2002, quelques semaines après, il a réussi à être au second tour. C'était tellement fort en 2007 que l'IFOP et le JDD avaient pris Jean-Marie Le Pen au mot, si je puis dire, en réalisant une enquête d'attention vote présidentielle où il n'était pas testé. Alors, il avait bien sûr hurlé, mais on avait pris en compte le fait qu'il disait lui-même qu'il avait des risques de ne pas être parmi les qualifiés, si je puis dire. Non, l'IFOP avait réalisé une enquête en 2012 où il y avait une très nette majorité de Français favorables à une réforme des parrainages. C'est vrai qu'il ne s'est rien passé dans le débat public au cours des dernières années. L'idée d'un filtre est quand même clairement légitime. Hein. Je crois qu'on avait compté il y a encore quelques semaines, il y avait 50 à 55 personnalités qui s'étaient déclarées candidates. Alors, certaines ont rejoint des candidats, Jacqueline Mourot pour Éric Zemmour, par exemple. On sait qu'à chaque élection, il y a des candidats qui n'arrivent pas à avoir leur fait de parrainage. Antoine Wechter, qui a pourtant été candidat en 1988.
Écologiste,
qui est maintenant un écologiste indépendant. Nicolas Miguet sur la question fiscale. Il y a toute une série de candidats qui n'ont pas leur parrainage. Et je pense que l'opinion publique est tout à fait favorable à ce que les choses évoluent, qu'on garde une dimension de filtrage, mais que toutes les sensibilités soient représentées. Ceci dit, on dit toujours, si les différentes sensibilités ne sont pas représentées, l'abstention sera extrêmement forte. C'est drôle d'avoir en tête que le record d'abstention à une élection présidentielle, c'est 21 avril 2002, élection où il y avait 16 ou 17 candidats, 16 candidats, c'est-à-dire un record.
Quelle est la position de la majorité sur cette question des parrainages?
Alors, deux choses déjà par rapport à ce que dit Prisca David Lisnard. C'est effectivement, s'il y a un sujet sur cela, et on le voit parce que c'est quand même une chanson qu'on entend à chaque élection présidentielle, bien évidemment, il faut être ouvert à ce qu'il y ait un débat dessus, bien évidemment en gardant cet aspect de filtre, mais il faut pouvoir entendre que la société évolue et qu'on ait besoin de revoir peut-être ces méthodes, mais clairement pas maintenant. Le jeu de la campagne présidentielle, excusez-moi du terme, mais a commencé, et on ne change pas les règles en cours de jeu. Là, pour le coup, l'opinion publique s'y perdrait complètement. Maintenant, sur justement cette campagne présidentielle qui a commencé, j'aimerais juste qu'on remette deux secondes les pendules à l'heure un petit peu. C'est que, de façon très claire, l'ensemble de ces candidats qui se plaignent de ne pas pouvoir avoir ou qui se plaignent de potentiellement ne pas avoir l'ensemble de leur parrainage, c'est quand même assez étonnant parce que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou en l'occurrence Éric Zemmour qui sont tous les deux dans cette démarche-là, passent leur temps à crier sur tous les toits qu'ils veulent relever des énormes défis pour la France, mais ils n'arrivent pas à relever ce propre défi personnel qui consiste à juste convaincre des maires de leur donner leur parrainage.
Mais est-ce que c'est si simple ?
Mais attendez, donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à convaincre des maires pour relever ce sujet d'avoir un parrainage, mais ils vont relever demain des défis sociétaux, sociaux, économiques, diplomatiques, environnementaux pour la France. Ça ne va pas être beaucoup plus simple. Hein,
vous voulez dire que vous mettez sur deux pieds différents le fait de pouvoir convaincre un maire ou un électeur
non,
lambda.
Non, c'est juste que je suis en train de dire, c'est que en fait, on passe beaucoup de temps en ce moment à les entendre, alors plutôt l'un que l'autre d'ailleurs, pour être très honnête, à se complaindre de cela. Mais souvenons-nous, Éric Zemmour se plaint aujourd'hui pour les parrainages. Il se plaignait un moment sur les sondages en disant que c'était les médias qui s'abattaient sur lui. Un autre moment, c'était sur les polémiques qu'on lui reprochait absolument, donc c'est le système qui s'en prenait à lui. Je pense qu'à un moment, il faut dépasser ce sujet. Le débat peut être ouvert dessus, mais attention à ne pas venir s'en faire la victime d'un système qui s'abattrait sur un candidat.
Peut-être juste une précision qu'on n'a pas évoquée jusque-là, c'est qu'avant, et notamment avant François Hollande, ces parrainages étaient anonymes. Mmh. Et en l'occurrence, ils ne le sont plus, ce qui effectivement peut-être dissuade un certain nombre de maires de soutenir, ne serait-ce que par principe, des candidatures dont ils n'adhèrent pas aux idées, mais dont ils considèrent qu'elles doivent être représentées. Donc c'est aussi pour ça qu'on a ce débat-là aujourd'hui. Mais là, je suis d'accord pour dire que les règles ne peuvent pas être changées en cours d'élection.
Le maire ne veut plus
se mouiller. Le principe d'un maire, c'est de se mouiller quand même. Il le fait, tous les élus locaux.
C'est pour expliquer pourquoi la question se pose à nouveau aujourd'hui.
Rappelons quand même, le maire, généralement, n'est pas juste un maire. C'est-à-dire qu'il est soit agriculteur, soit
bien
il est
sûr,
médecin, soit il est... Enfin voilà, il fait partie de la vie de la commune. Et on l'a choisi parce que c'était sans doute le plus, comme on disait d'Alain Juppé, le plus doué de nous tous.
Pourquoi François Hollande a fait ça? Parce qu'il y avait aussi une demande de transparence dans la société. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc, la difficulté de chaque fois, c'est qu'il y a de la transparence. Donc, effectivement, on sait, chaque Français dans sa commune peut savoir quels candidats son maire a parrainé. Et effectivement, comme on est dans une société plutôt fracturée, on vient de le voir sur la position sur la vaccination, l'obligation vaccinale, et bah, évidemment, si votre maire, que vous pensez, notamment, il y a beaucoup, beaucoup d'élus qui sont facialement sans étiquette. Bon. Évidemment, quand ils mettent un bulletin d'honneur, il n'y a pas marqué sans étiquette dessus. Ils pensent quelque chose politiquement. Et donc, simplement, dans beaucoup de communes, bah, le fait de s'afficher, ou d'un côté avec Jean-Luc Mélenchon, ou de l'autre côté avec Marine Le Pen, etc., eh bien, du coup, ça peut fracturer cette image. On est tous ensemble, notamment dans les petites communes, où en fait, le conseil municipal évacue la dimension politique. Est-ce qu'on goudronne la route? Est-ce qu'on fait l'école? Qu'est-ce qu'on fait de la salle des fêtes? Est-ce qu'on fait la fête du village? Donc, en fait, on gère une commune. Et on a évacué la dimension politique. Le parrainage d'un candidat à présidentiel, on réintroduit une dimension politique, notamment dans des petites communes. Oui. Et là, ça bloque aujourd'hui, parce que maintenant, ça se sait. Donc, quand les gens découvrent que, pour ça qu'il y a des maires qui l'ont arrêté, parce qu'ils disent...
Mais c'est bien d'avoir changé ça?
C'est bien. De toute façon, aujourd'hui, on peut en penser ce qu'on en veut. On est dans une société où les gens veulent savoir ce qui se passe. Donc, la transparence, il n'y a pas de marche arrière sur la transparence. On ira de plus en plus vers la transparence, et comme ça, on peut en penser ce qu'on veut. Parce que... Voilà, les gens veulent savoir, ils considèrent que l'information est une dimension de leur liberté et de la citoyenneté. Après, le sujet, c'est comment, effectivement, en gardant un filtre, on arrive à élargir peut-être le corps électoral. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, puisqu'on se dit que ces grands mouvements, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, bah, ils n'ont en fait pas d'implantation territoriale. C'est ça la réalité, c'est que malgré des années et des années, Marine Le Pen, eh ben, elle a pas, ils n'ont pas 300 maires. Et,
Ils en ont quelques-uns, mais
ils n'en ont pas 300. Parce qu'ils n'ont pas réussi à transformer leur score national en score local.
Frédéric David.
En écoutant la fin du tuto de Philippe, qui est parfait, c'est vrai que ça me fait penser à une des grandes caractéristiques de ce quinquennat électoral, c'est qu'on a une séparation jamais vue entre scène politique locale dominée par les partis de gouvernement, c'est-à-dire PS, LR, UDI, PCE, ELV, on peut en citer d'autres.
Enfin, ELV, qui ont quand même raflé énormément de mairies.
Ils ont raflé quelques grandes métropoles.
Enfin, c'est quand même significatif.
Tout à fait.
Prenez le nombre d'habitants.
Mais même Europe Écologie Les Verts n'a pas réussi à empêcher les sortants d'être réélus. La seule ville tenue par le PS où le maire socialiste se représentait, c'était effectivement Poitiers. Et donc, d'un côté, la France insoumise, le RN, qui ont toujours des difficultés à s'implanter.
Et alors du coup, ce que propose, enfin les pistes qu'a proposé David Lisnard, le double parrainage, le parrainage citoyen, ça c'est des choses qu'on pourrait étudier à l'avenir.
Oui, aussi qu'il y ait un million de citoyens, 500 000 citoyens, un million qui appellent, qui appelle spontanément.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que proportionnellement, il faudrait...
voilà, il faudrait quelque chose, mais c'est des règles
c'est
à prendre.
C'est pas un pour un.
Mais honnêtement, c'est pas à 84 jours du vote
non, mais
ces règles vont changer. Mais en tout cas, c'est vrai
bien,
que...
Mais d'ailleurs, je pense que David Lisnard ne le dit pas pour
non,
cette...
Non, bien sûr, monsieur, on est d'accord.
Non, pas du tout, je pense qu'il le dit pour la suite.
Il a raison.
Othmane Nasrou.
Non, mais effectivement, ce que j'ai compris de ce que disait David Lisnard, il a entièrement raison, c'est que pour l'avenir, on devait avoir ce travail-là qui appartient encore une fois non pas au maire, non pas à l'opposition, mais bien à la majorité, bien au gouvernement, bien aux assemblées parlementaires. Et donc, on pourra avoir ce travail-là, mais évidemment pas quand une compétition est déjà lancée. Je note d'ailleurs que pour Prisca Thévenot, on est déjà rentré dans la campagne.
Bah oui,
j'en déduis qu'Emmanuel Macron est candidat, si je comprends bien.
Non,
je ne doute pas qu'il aura fait parrainage. Mais en l'occurrence, effectivement, on est aujourd'hui trop proche de l'échéance pour changer les règles du jeu.
Oui, mais alors ça, c'est assez amusant. Mmh. Vous dites que vous êtes en campagne et le président n'est pas en campagne.
Bah, oui, mais ça, c'est un secret. Enfin, c'est un secret pour personne, et je l'ai dit d'ailleurs plusieurs fois ici. La majorité présidentielle, que ce soit les militants...
J'ai l'impression que ça gêne Othmane
Nasrou. Oui, mais pas moi, je suis à l'aise avec ça. La majorité présidentielle...
Ce qui me gêne, c'est que le président nous fait croire qu'il continue à faire son travail de président, alors qu'en réalité, il fait un travail de candidat, comme on l'a vu à Nice récemment.
Souvenez-vous des paroles de votre candidat.
Est-ce que c'est pas le problème de tous les présidents sortants?
Oui,
c'est du classique. Plus loin. Voilà. Que d'autres ne l'ont fait. Et je trouve que le meeting qui a eu lieu à Nice nous expliquait que c'était un dépassement de président de la République. Je pense que c'était d'une particulière mauvaise foi. Quand on défend son bilan, quand on fait deux heures. Écoutez, il y a un principe d'équité entre les candidats. Voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on est sortant.
Et est-ce que ce principe d'équité nous a valu cette sortie de Valérie Pécresse, tweet aussitôt effacé, moi je prends le train à 5h du mat et pas les Falcons de la République?
Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'un président de la République.
Mais elle est présidente de région.
C'est tout.
La plus riche région de France.
Mais elle ne fait pas campagne avec les moyens de la région.
C'est vrai qu'elle
n'y
est pas.
Hein.
Ah, bah, très bien. Moi, c'est ça
elle
aussi
pas
qu'on
campagne
pourra...
avec les moyens de la région.
Elle
alors que là,
pas...
le déplacement du président
vous
de la République à Nice,
ce qui est génial
pas.
Avec Valérie Pécresse,
le déplacement...
avec tout le grand respect que j'ai.
Je ne l'ai pas interrompu, mais le déplacement du président de la République à Nice, il s'est fait avec les moyens de l'État.
Et bien, vous savez.
Pécresse ne fait pas campagne avec les moyens de la région.
Vous savez, je vais vous le faire dans l'autre sens. Je vais vous le faire.
Non,
Philippe, deux secondes. Je veux juste répondre sur ça. Parce que pour le coup, c'est important. Vous reprochez au président de la République de faire ce pour quoi il a été élu, c'est-à-dire être président pendant 5 ans.
Pas du tout.
Pas 4 mois et demi, 5 ans. Moi, ce que je reproche à Valérie Pécresse, c'est de ne pas faire ce pour quoi elle a été élue en juillet dernier, à savoir être présidente de région. Dès l'instant où elle s'est lancée, et je peux en témoigner, je suis conseillère régionale, vous le savez très bien, dès l'instant où elle a été candidate au Congrès, hein, pas victorieuse au Congrès, dès l'instant où elle était candidate au Congrès, elle venait en début de séance, elle venait en fin de séance. Moi, j'attends de voir la séance du 28 janvier, parce qu'il y a une séance du 28 janvier en conseil régional permanente, est-ce qu'elle sera là? Je ne crois pas. Elle vient quand il y a des photos et quand il y a des médias. C'est très important. Elle est élue, elle doit venir.
Elle a engagé 80% de son projet, vous le savez. Mais c'est
qu'on a voté sans elle, elle n'était pas là.
On n'est pas en train de parler de ça, mais arrêtez. Vous ne pouvez pas se faire trotter.
Ça n'a rien à voir. Philippe,
mais encore une fois, pardon, il y a une chose que je ne laisserai pas dire.
15 secondes.
14. Emmanuel Macron, il ne faisait pas son travail de président de la République quand il est allé à Nice. Il n'a pas pris des décisions. Il n'a pas fait des annonces qu'il peut mettre en place sur ce quinquennat. Il a fait des annonces pour 2030 qui ne pourront même pas être votées. Mais non, la session parlementaire finit.
C'est l'hôpital qui boit de la charité, parce que s'il y en a bien une qui a utilisé les moyens de la région, notamment dans sa campagne des régionales, c'est bien Valérie Pécresse.
Quand vous parlez, mais... M. Doucet, il y a les comptes de campagne. Hein.
Oui,
tout ça est réglementé.
Bien sûr, non, mais...
Et c'est ce qu'on demande, à ce que les comptes de campagne
quand
de M. Macron reprennent.
La campagne des régionales dernièrement, le show sur les distributions de masques et tout ça, bon, tout ça c'est de bonne guerre. Demain, si un jour vous revenez, ce que je ne souhaite pas aux responsabilités, vous ferez le même sketch. Tout ça, c'est de bonne guerre. Tous les présidents l'ont fait. Tous les présidents de région ont fait ça pour leur campagne régionale, en utilisant là-dessus. Et même les maires l'ont fait. Je suis bien placé pour le savoir. Donc tout le monde a utilisé les communes pour jouer à ça. C'est de bonne guerre.
Je partage plutôt ce que dit Philippe Doucet. Un président sortant qui se représente, hein, c'est la règle de la Ve République, comme on le sait, à deux exceptions près, Georges Pompidou et François Hollande, a la maîtrise de son agenda. François Mitterrand se déclare le 23 mars 88. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une archive savoureuse où il se promène du côté du Louvre, où il dit ça va venir bientôt. Il a la maîtrise de l'agenda. Ça agace les oppositions. Ça n'empêche pas qu'un président sortant peut être réélu très nettement, ou il peut être battu. Mais je pense que ce n'est pas un sujet central qui va polariser les Français.
Frédéric, est-ce que du coup, un président sortant, puisque Valérie Pécresse fait la petite vanne sur le Falcon, est-ce que pour un déplacement, il devrait prendre un avion de ligne en le payant de sa poche?
Je vais être très très sincère. Ce déplacement à Nice, on peut très bien dire... si on est proche d'Emmanuel Macron, si on le soutient, mais c'est un déplacement
dans le cadre de sa fonction de président de la République. Mmh. Il va voir.
Et puis il va y avoir un petit problème de sécurité s'il prend un avion de ligne.
Voilà, donc il va voir. Mais il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, il n'a pas à prendre un avion de ligne. Comme janvier 2012, Nicolas Sarkozy a sûrement fait beaucoup de déplacements. Mmh. Il n'a pas pris le moindre avion de ligne, mais ça fait partie, et je pense que les socialistes à l'époque l'attaquaient, ça fait partie du jeu et c'est l'avantage d'un président sortant.
Bon.
Non mais encore une fois, il annonce le problème. Je suis d'accord, s'il avait fait son travail de président, il a fait des annonces qui ne pourront pas être votées sur ce quinquennat. C'est tout. La session parlementaire finit fin février. Il a parlé d'une loi de programmation qui ne pourra jamais être
votée. Auriez dû écouter.
Ça veut dire qu'il s'inscrit, ses propos se déplacent, s'inscrit dans le quinquennat suivant.
Ce qui vous gêne,
c'est
donc
il est candidat. Ouais. C'est tout. C'est pas grave, mais à un moment, il faut qu'il sorte de cette ambiguïté. Ce sera plus simple.
Passer un débat scolastique d'une mauvaise foi totale de part et d'autre.
Mais c'est un expert qui en parle.
Oui, non, mais c'est une réalité. On n'est pas d'expert de mauvaise foi. La réalité, c'est que le président de la République, dans le jeu institutionnel, jusqu'à ce qu'il soit candidat, voilà le jeu. Et donc, François Mitterrand s'est déclaré très tard à un moment donné. D'autres
on
aussi.
On sait quand est-ce qu'il se déclare, Emmanuel
donc,
Macron,
voilà, bon. Et sur l'utilisation des moyens de l'État par les Républicains, c'est quand même, là aussi, des collecteurs. Jacques Chirac, un grand spécialiste devant l'Universel.
Bah, on ne prenait pas des engagements pour 2030.
Ça, voilà.
Pardon.
Donc,
pas des annonces pour 2030.
Et je peux vous citer les élus républicains qui ne prennent pas des candidats.
Là, je suis désolée, mais là, pour le coup, vous parlez d'un sujet extrêmement important. S'engager pour 2030, vous faites sûrement allusion au discours du président de la République de France 2030, ce qui est extrêmement important. Non, mais moi, je vous en parle aussi. France 2030, on en a parlé en novembre de l'année dernière, ou c'était en octobre-novembre. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, un président de la République ou une présidente de la République doit régler les problèmes et répondre aux préoccupations quotidiennes et présentes des Français, mais doit aussi pouvoir permettre à un pays de se projeter.